Mercredi soir, c'est l'heure du roman noir. Nous sommes bien sur Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Jacques. Au sommaire de cette émission, nous allons commencer par faire un petit tour des news de la planète polar. En particulier, on décerne aussi des prix dans le roman noir, donc on va vous en parler. Et puis, quelques coups de cœur, deux coups de cœur. Bon, je regardais la table, savoir combien de livres il y avait. Et en deuxième partie d'émission, nous aurons le plaisir d'accueillir Marie-Caroline Aubert, qui est la directrice de collection de Seuil Policier, chez l'éditeur Seuil, bien évidemment. Et nous parlerons d'un de nos coups de cœur de cet automne, un magnifique roman noir qui s'appelle La Demeure Éternelle. C'est de William Gay, évidemment. C'est chez Seuil Policier. Voilà, alors les news. On va commencer par un petit peu d'autopromotion. Pour vous dire que, si ça vous intéresse, vendredi 30 novembre, c'est-à-dire dans 9 jours, si je ne m'abuse, à Drape, donc Drape c'est une petite ville de l'autre côté de Nice, ça fait pas si loin que ça, ça fait, de Grasse ça fait même pas 50 kilomètres, et puis il y a des auditeurs qui habitent Nice. À Drape, à la salle Maurice Thorez, à la médiathèque, nous animerons une soirée qu'on va dire ferroviaire. En fait, on va un petit peu parler du polar ferroviaire en compagnie de Jean-Bernard Puy, qui de temps en temps, dans une illumination, s'intitule comme un auteur ferroviaire. C'est vrai que pas mal de ses romans se passent dans un train, un wagon, tout au moins une partie du roman. Et puis simplement pour justifier un petit peu le rapprochement entre le train et le polar, ben disons que pensez à un film d'Hitchcock, hein, où il y a suffisamment de scènes où il y a des trains, des tunnels et des wagons.
Où on disait roman de gare.
Voilà, la littérature de gare, exactement. Alors, je vous parlais de prix littéraires. Des prix littéraires, vous avez beaucoup entendu parler du Médicis, du Goncourt et tout. Moins connus, mais tout aussi glorieux. Différents prix qui ont été décernés cet automne. Et on va commencer par un prix très original, d'abord par son nom. C'est les balais. Les balais, donc il y a le balai d'or, le balai d'argent et le balai de bronze. Et il y a même des prix spéciaux. Et c'est un blogueur, Richard, qui a un blog qui s'appelle Le Concierge Masqué, donc qu'on va trouver à l'adresse toute simple concierge masqué d'un seul mot .com, et qui, c'est la deuxième fois qu'il décerne ces prix. Ce sont des blogueurs qui choisissent parmi leurs polars favoris. Alors je vais vous donner les titres. Le Balai d'or, Paul Collis, c'est un roman qui est paru à la Manufacture des Livres, et le roman s'appelle Backup. La couverture est d'enfer, vous pouvez pas la louper chez votre libraire favori.
Un roman plutôt rock'n'roll.
Rock'n'roll. Le Balai d'argent, donc le deuxième prix. Un roman dont on avait beaucoup parlé ici. Le diable tout le temps, Donald Ray Pollock, chez Albin Michel. La traduction est de Christophe Mercier. Et enfin, le Balai de bronze, toujours deux prix pour la Manufacture des Livres, ils doivent être contents, pour Doux comme la mort, et ça, c'est un livre de Laurent Guillaume. Ça, ce sont des prix qui ont été décernés il y a une dizaine de jours. Plus récemment, le week-end dernier, donc le 19 décembre, 18 ou 19 novembre, pardon si je ne m'abuse, on a décerné aussi les trophées 813. Alors 813, je rappelle que c'est une des plus grandes associations européennes, allez, on va être prétentieux, c'est certainement la plus grande association européenne autour des littératures policières. Et chaque année, cette association, depuis plus d'une trentaine d'années, décerne 3 et maintenant 4 trophées. Le trophée 813 du roman francophone, roman étranger, contribution à la meilleure publication autour des littératures policières. Et depuis cette année, a été remis en scène les prix BD. Donc, je vais commencer tout de suite par le trophée du meilleur roman francophone. C'est Monsieur le Commandant, un livre de Romain Slocombe, chez Nil Éditions. C'est un roman, c'est pas sa première récompense, hein, je crois qu'on en est au troisième prix. Et pour en dire deux mots, ce roman nous plonge. Je pense que ce roman commence en 32, il se termine jusqu'en 42. Forme très originale, sous la forme d'une lettre de dénonciation. Et en gros, il raconte l'itinéraire d'un lettré pétainiste, antisémite, amoureux fou de sa belle-fille, qui est juive. C'est une analyse vraiment très très fine, parfois très très dure, mais qui nous fait bien réfléchir, et en tout cas, à cette idée qui parfois est un petit peu trop facile, non, les fachos, c'est pas tous des cons. Alors, pour le trophée du meilleur roman étranger, en même temps la meilleure traductrice, je dis traductrice parce que ce livre est traduit par Fabienne Duvigneau, c'est Stuart Neville et les fantômes de Belfast, chez ses Rivages Thriller. Et Jacques, tu nous en avais parlé il y a quelques mois.
Oui, et avec Jean-Marc d'ailleurs.
C'est ça.
Et donc en fait, les fantômes de Belfast, ben je vous rappelle, donc ben c'est les fantômes qu'a dans la tête Jerry Fagan, qui est un ancien tueur de Lyra, qui vient de sortir de prison et qui est devenu alcoolique. Et les fantômes, il les a dans la tête, et c'est les 12 fantômes des 12 personnes qu'il a tuées sur ordre de ses chefs. Et pour les faire partir, il va devoir se venger de ceux qui lui ont donné ses ordres, car il se rend compte que ils les ont pas forcément donnés pour la bonne cause.
Voilà, un roman qui évite quand même
voilà,
quelques manichéismes.
Voilà, bien qu'on puisse lui reprocher un certain... enfin, de dire que Lyra et c'est tous des pourris, un peu comme dans la dernière fois on vous parlait des Corses, en disant que dans les Corses, il y a que des mafieux, ce qui est peut-être valable pour la Corse, c'est peut-être un peu plus douteux pour les gens de Lyra. Mais bon, ça c'est juste une opinion personnelle.
Voilà, alors le prix BD... ça a été décerné à La Princesse de Sang. Et en 2011 est sorti le tome 2, mais je pense qu'on peut faire, on peut globaliser sur le tome 1 et tome 2. La Princesse de Sang, c'est le dernier roman de Jean-Patrick Manchette. Donc, pour ce très très bel album chez Dupuis, nous avons au scénario Doug Headline, qui est ni plus ni moins que le fils de Jean-Patrick Manchette. Donc, même si certaines lignes ne sont pas écrites par, enfin, tout au moins, si c'est un roman dit inachevé, je pense que Doug Headline savait, c'est ce qu'il fait. Et les magnifiques illustrations sont de Max Cabane. Donc, La Princesse de Sang, Max Cabane et Doug Headline.
De Tom chez Dupuis.
Chez Dupuis. Et enfin, la meilleure contribution à un roman, enfin, plutôt à la littérature policière. En gros, un prix qui permet de promouvoir un blog, un site, un essai qui promeut cette littérature. Donc ce prix a été attribué cette année à un essai, Le détective novel et l'influence de la pensée scientifique. C'est un essai de Régis Messac qui a été très très ancien, qui a été réédité, réactualisé et c'est chez Ancrage. Voilà, vous retrouverez tous ces prix sur le site de La Noiraude. Jacques, maintenant, un coup de cœur. Non?
Oui, oui, tout à fait. Un coup de cœur d'un auteur dont on parle assez régulièrement, mais ça fait longtemps qu'il avait rien sorti. L'auteur, c'est Patrick Reynal. Le roman s'appelle « Au service secret de sa sainteté » et il est paru aux éditions Les Cahiers. Alors, avec un titre comme ça, c'est un titre à la James Bond, hein, ça rappelle « Au service secret de sa majesté », là, c'est de sa sainteté. On pressent tout de suite qu'on va avoir affaire à un roman d'espionnage, et en effet, c'est bien le cas. Et une autre petite similitude avec le James Bond dont je parlais avant, il va être fortement question d'une principauté de pacotille entre la France et l'Italie qui rappellera certainement des souvenirs
Andorre.
Aux habitants de la Côte d'Azur ou alors aux lecteurs de Point de Vue Image du Monde ou ceux de Paris Match.
Ceci dit, je pense pas qu'on ait beaucoup d'auditeurs qui lisent Point de Vue Image du Monde.
Sait-on jamais. Surtout que la princesse de cette principauté et malheureusement décédé dans un accident de voiture sur une route tortueuse. Encore quelques similitudes. Bon, là, il n'y a pas d'Aston Martin, mais il y a une Austin Haley Mac 3, qui est quand même un peu plus classe encore. Il y a des vodkas, mais elles ne sont pas martinis, ce sont juste des simples vodkas, super goûteuses vodkas, glacées sur glacées. Sauf, parce qu'il y a, comme il y a Judith sa sainteté, vous donne tout est bien, il y a des évêques dans le roman, et eux, les évêques, ils ne boivent que du single malt, hors d'âge. Mais bon, on y reviendra peut-être. Mais voilà, on est dans un roman donc d'espionnage, je vous le disais, mais un roman de Patrick Reynal. Et du coup, l'espion, il n'est pas britannique, il n'est pas du MI5, ni même de la CIA, car en fait, il va agir pour le pape, comme le titre, vous le laissez entendre. Et cet espion, en fait, c'est un curé du fin fond du Burkina Faso, qui est rappelé au service par sa sainteté lui-même, enfin disons un premier adjoint. Étrange, me direz-vous. Certainement, parce qu'en plus d'être dans les ordres,
Vous êtes noir, pardon.
Non, il est pas noir, mais il est
mais
dans
il
les.
Ah bon?
Non, il est curé au Burkina Faso, mais il est pas noir, non. Mais par contre, c'est un ancien gauchiste. bon, ça, Patrick Reynal, il sait ce que c'est, et un ancien gauchiste qui a un long et lourd passé d'activiste. Un vrai pur et dur, hein, qui a fait de la lutte armée avec Abou Nidal, avec l'IRA, on en parlait, tiens, et avec quelques autres. Bon, alors je vais maintenant vous parler un tout petit peu de sa mission, à ce brave curé. Il est chargé, sa mission officielle en fait, il est chargé de prouver que la princesse décédée ferait une très très bonne candidate à la béatification. Et sa mission officieuse, c'est exactement le contraire.
Voilà. J'ai suivi.
J'espère que vous avez suivi, Corinne a compris, donc ça devrait aller pour vous aussi. Hein. Alors j'ai oublié de vous dire, le héros masqué s'appelle Jonathan Swift. Bon, tant qu'à faire, quitte à choisir un nom, autant en prendre un comme ça.
Je pense que c'est un des auteurs.
Voilà,
sûrement. Bien Patrick Reynal.
Voilà. Et alors, on va le retrouver dans cette principauté à essayer de trouver les circonstances exactes de la mort de la princesse. Alors, il sera aidé dans ses investigations par un vieil ami de combat, disons, qui est lui devenu un flic très haut gradé en Italie. Alors, bien sûr, Reynal s'amuse beaucoup, et nous aussi. Alors, des clins d'œil répétitifs à ce rocher que l'on connaît bien. Alors là, c'est pas un rocher, c'est une île, mais enfin, sinon, c'est à peu près pareil. Il fait aussi, à la manière de Ken Bruen, des références aux auteurs qu'il aime bien. Alors là, bon, j'ai trouvé...
Enfin, j'ai c'est un auteur qu'il a découvert, si je ne m'abuse, Ken Bruen.
Oui, voilà, et j'ai extrait, entre autres, là, de ceux que j'ai repérés, et il parle d'un certain Lorenzo Machiavelli. Donc, tout le monde voit bien que c'est, en fait, Loriano Machiavelli qu'on connaît très bien. Il parle aussi, ça, d'un auteur plus rare, pas polar, mais quand même excellent, Christophe. Alors, pas le chanteur, mais Christophe, l'auteur du Sapeur Camembert et de sa suite. Alors, sur un ton badin, en fait, finalement, parce que bon, on s'amuse beaucoup à lisant ce livre, mais en fait, il parle de corruption, de prévarication, de blanchiment d'argent, dont on a cru entendre ou lire dans Nice Matin qu'il n'y avait absolument pas sur le rocher en question, de lutte d'influence, et aussi des pouvoirs religieux et d'autres qui gangrènent, pardon, notre monde dont il est question ici. Si on s'amuse beaucoup, il y a de l'action, les morts, des coups de feu, des scènes torrides, ça ne manque pas. Patrick Reynal s'amuse vraiment bien à les décrire, aussi bien les scènes de sexe que les scènes de bagarre. Il restera quand même à la fin du livre une question un petit peu ironique, car si tout ce que vient de nous raconter Patrick Reynal dans ce roman, dans cette principauté de fiction, en fait serait en deçà de la réalité de cette principauté vraie. Et je ne parle même pas des actions secrètes et maléfiques du Vatican, bien évidemment. Ce sont deux questions que je vous laisse vous poser après la lecture de ce roman.
Donc c'est chez les Cahiers.
Chez les Cahiers, au service secret de sa sainteté, de Patrick Reynal.
Avec une aussi très jolie très belle couverture.
Avec une Austin, il est MK3, si je ne m'abuse.
Il est peut-être temps d'écouter un petit peu de musique.
Voilà, et bizarrement, dans ce livre, Patrick Reynal ne parle pas beaucoup de musique. Alors, il en a l'habitude. Alors, il y a une vague allusion à Motorhead. On n'écoutera pas Motorhead ce soir. On va écouter pas vraiment du rock, bien que j'affirme que ce soit l'émission polaire la plus rock de la bande FM, mais on va écouter du jazz cool. C'est le nouvel album de Ben Sidran, qui nous avait pas mal impressionné et en bien avec son disque de reprise en live de Bob Dylan. Là, le nouvel album, beaucoup de compos, de ses propres compos, mais on va écouter un vieux tube country, 16 Tones, c'est du jazz, mais si vous écoutez bien, il y a aussi un petit peu de Tom Waits là-dedans.
A man, he's made out of mud. A poor man, he's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. He's got a mind that's weak and a back that's strong. Loading 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. My soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. fighting and trouble, that's my middle name. I was raised in a canebrake by an old mama lion. Ain't no high-toned woman make me walk in that line. You load 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Donc voilà, l'album de Ben Sidran s'appelle Don't Cry for No Hipster et il est paru chez Banzai Music hier.
Ah, une nouveauté. Ben moi aussi, je vais vous parler d'une nouveauté. C'est un livre qui nous vient de Grèce, un livre traduit par Michel Volkovitch, livre qui s'appelle Liquidation à la grecque, Petros Markaris. C'est chez Seuil Policier. Petros Markaris, on en a déjà parlé, un romancier qui a un lourd vécu puisque... il a beaucoup milité au temps du régime des colonels. Il décrit la Grèce moderne. On avait parlé il y a quelque temps du Tché s'est réveillé avec en fond d'intrigue les douteuses histoires autour des Jeux Olympiques d'Athènes. Là, on est actuellement avec tout ce que peuvent vivre les Grecs au fin fond de la crise économique. Ce qui est bien avec un livre comme ça, c'est que c'est à la fois un roman noir qui décrit la société moderne et qui dénonce pas mal, tu parlais Jacques de corruption et de prévarication, il y en a un maximum là-dedans, mais grâce au personnage principal et surtout à sa femme, c'est quand même un roman très divertissant, on se prête à sourire et même à rire aux affres que passe ce pauvre commissaire Charitos qui est affublé d'une Adriani qui est absolument... Enfin, je vous la laisse découvrir.
Mais elle cuisine bien.
Voilà, surtout les petits farcis. Ça, elle les cuisine très très bien. Là, la fille est partie, elle s'est mariée. Ça commence d'ailleurs par le mariage. Et Charitos est rappelé d'urgence parce que on découvre le corps d'un banquier décapité. Comme à côté, il y a son majordome et qu'il est noir, évidemment, c'est facile de penser que c'est une attaque terroriste contre les capitalistes et qu'en plus... comme c'est un noir, bah, il doit bien savoir tailler de la machette, enfin, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. C'est... Donc, il se fait arrêter, mais évidemment, Charitos n'est pas trop d'accord pour l'attentat terroriste. Les liquidations à la grecque sont plus subtiles que ça, se dit-il. Un deuxième meurtre, un troisième meurtre, et en même temps, on inonde la Grèce, enfin, surtout Athènes, de publicité qui incite les gens à ne plus rembourser les prêts et à ne plus payer ce qu'ils doivent à leur banque ou à leur banquier. Imaginez un petit peu la tête des banquiers qui en perdent la tête, justement, et d'un, et deuxièmement, qui voient arriver leur faillite, parce que faut quand même voir que c'est plutôt les Grecs ouvriers ou les gens qui sont, on va dire, dans la middle class, qui s'en prennent plein la tête, plutôt que les banquiers qui sont encore tranquillement installés sur leur fauteuil. Voilà, je vous laisse découvrir l'intrigue. C'est plein de rythme. Encore une fois, c'est assez drôle. Mais en fond, il y a vraiment la Grèce de 2010 à 2012 avec une galerie de portraits très, très intéressants où on voit en particulier toutes ces personnes, ces choses qui risquent de nous arriver. C'est-à-dire qu'en gros, ben, on rogne sur les primes, sur les salaires, sur tout ça. Voilà, ça s'appelle Liquidation à la grecque. C'est chez Seuil Policier, Petros Markaris, et nul doute que vous aurez envie de lire aussi les précédents qui sont en point seuil.
Espérons que la Merkel ne va pas lire ça, parce que sinon elle va déprimer sec. Hein.
Oui. Une petite pause.
Les infos.